Chapitre 2. Dans un livre, lisant, mais pourquoi me parler ainsi, lorsque moi-même je me sens sincèrement ému de tout cela, comme si j'y étais personnellement intéressé, dans un livre. Mais tout ce que je t'ai dit est sorti de mon âme. Est-il donc possible, est-il donc vrai, que tu ne sentes pas l'horreur de vivre ici? Telle est la force de l'habitude. Le diable sait ce que l'habitude peut faire d'un être humain. Penses-tu donc sérieusement que tu ne vieilliras jamais, que tu seras toujours belle et qu'on te laissera ici durant des éternités? Je ne parle même pas de l'ignominie de cette maison. En ce qui concerne ta vie même ici, vois un peu. Tu es jeune, attrayante, belle, tu as du sentiment. Eh bien, sais-tu que tout à l'heure, quand je suis revenu à moi, j'ai eu du dégoût à me voir auprès de toi? Il faut être ivre pour oser entrer ici. Mais si tu étais ailleurs, si tu menais une vie honnête, peut-être te ferais-je la cour, peut-être t'aimerais-je. Chacun de tes regards alors serait un bonheur pour moi, et chacune de tes paroles. Je t'épierais à ta porte, je serais fier de toi, je te considérerais comme ma fiancée, et ce serait mon plus cher honneur. Je n'aurais pas, je ne pourrais avoir à propos de toi une seule pensée impure. Mais ici, je sais trop que je n'ai qu'à siffler, que bon gré, mal gré, il faut que tu me suives, que ce n'est pas ta volonté que je consulte, mais que tu es d'avance soumise à la mienne. Le dernier moujik qui se loue comme manœuvre n'est pourtant pas un esclave. Il sait que sa tâche aura un terme. Et où est le terme pour toi? Réfléchis donc. Qu'est-ce que tu sais d'ici? Qu'est-ce que tu as servi? Mais ton âme dont tu n'as pas le droit de disposer, tu l'as servi à ton corps. Tu livres ton amour à la profanation des ivrognes. L'amour, mais c'est tout au monde. C'est le plus précieux des diamants, c'est le trésor des vierges. L'amour, mais pour le mériter, il y en a qui donnent leur âme, leur vie. Mais maintenant, ton amour, que vaut-il? Tu t'es vendu tout entière. Quel niais viendrait parler d'amour où tout y est permis sans amour? Mais quelle pire offense que celle-là pour une femme. Me comprends-tu? Je sais comment on vous amuse, comment on vous permet d'avoir des amoureux même ici. Ce n'est qu'un jeu, une supercherie. Vous vous y laissez prendre, l'on se rit de vous. Qu'est-ce en effet que ton amoureux t'aime-t-il? Jamais. Comment pourrait-il t'aimer, sachant que tu vas être obligé de le quitter à l'instant? C'est un mal propre, voilà tout. T'estime-t-il le moins du monde? Y a-t-il quelque chose de commun entre toi et lui? Il se moque de toi, il te vole, voilà son amour. Estime-toi heureuse qu'il ne te batte pas. Et qui sait, il te bat peut-être. Demande-lui un peu s'il veut t'épouser. Il te rira au nez s'il ne te crache pas au visage et si, cette fois au moins, il ne te bat pas. Et pourtant, il ne vaut peut-être pas deux copecs hors d'usage. Quand on y pense, mais pourquoi donc as-tu enseveli ta vie ici? Est-ce parce qu'on te donne du café et qu'on te nourrit bien? Mais dans quel but te nourrit-on? Chez une honnête fille, un pareil morceau ne passerait pas le gosier. Elle verrait toujours le secret motif de toute cette abondance. Tu dors ici et tu y devras toujours, jusqu'à la fin des fins, jusqu'au moment où les clients ne voudront plus de toi. Cela viendra bientôt. Ne te fie pas trop à ta jeunesse. Ici, les années comptent triple, on te jettera dehors. Et longtemps avant de te jeter dehors, ce seront des chicanes, des disputes, des reproches comme si tu n'avais pas donné à ta patronne ta jeunesse et ta santé, comme si tu n'avais pas perdu ici, pour rien, ton âme, comme si c'était toi qui l'eusse dépouillée, réduite à la mendicité, comme si tu l'avais volée. Ne n'espère pas qu'on te soutienne. Pour plaire à la patronne, tes camarades aussi tomberont sur toi, car toutes sont esclaves comme toi. Il y a longtemps qu'elles ont perdu la conscience et la pitié. C'est à qui sera la plus immonde, la plus vile, la plus outrageante. Elles savent des injures que nulle part ailleurs on soupçonne. Tu perdras tout ici, tout ce que tu as de plus sacré, ta santé, ta beauté, ta jeunesse, tes dernières espérances. À 22 ans, tu en auras 35, et si tu n'es pas malade, estime-toi heureuse, rends grâce à Dieu. Bon, tu penses peut-être qu'au moins tu ne travailles pas, que tu fais la fête, malheureuse. Il n'existe pas au monde une besogne plus horrible que la tienne. Il n'y a pas de travaux forcés comparables à ta vie. Cette seule pensée ne devrait-elle pas dissoudre ton cœur dans les larmes? Et quand on te chassera d'ici, tu n'oseras dire un mot ni un demi-mot, tu t'en iras comme une coupable. Tu iras dans une autre maison, puis dans une troisième, puis ailleurs encore. Enfin, tu tomberas à la Sennaïa. Là, on te battra. Ce sont les amabilités de l'endroit. Les clients y confondent les caresses et les coups. Mais tu ne peux t'imaginer l'horreur de ce bouge. Vas-y voir une fois, peut-être en croiras-tu tes yeux. Un soir de Nouvel An, j'y ai vu une femme à la porte. Pour se moquer d'elle, ses camarades l'avaient mise dehors parce qu'elle pleurait trop. On voulait la faire geler un peu, et l'on avait fermé la porte derrière elle. À 9 heures du matin, elle était déjà ivre, débraillée, à demi nue, toute meurtrie de coups. Son visage fardé et ses yeux pochés faisaient un étrange contraste. Ses gencives et son nez suaient le sang. C'était un cocher qui venait de lui administrer une correction. Elle avait dans les mains un poisson salé. Elle s'assit sur une marge de pierre et se mit à hurler en pleurant. Tout en se lamentant sur sa destinée, elle frappait avec son poisson les degrés de l'escalier, et sur le perron s'amassaient des cochers et des soldats ivres qui l'excitaient. Tu ne veux pas croire que tu deviendras ainsi. Je ne voudrais pas le croire moi non plus, mais qu'en savons-nous? Peut-être 10 ou 8 ans auparavant, la femme au poisson salé est-elle arrivée ici, fraîche comme un chérubin, innocente, pure, ignorant le mal, rougissant à chaque mot? Peut-être était-elle fière comme toi, extrêmement sensible, toute différente des autres et ne soupçonnant pourtant pas quel bonheur attendait celui qui l'aurait aimé et qu'elle aurait aimé. Moi, comment elle a fini? Si pourtant alors, quand ivre et débraillée, elle frappait de son poisson les degrés fangeux, si pourtant elle s'était rappelée les années de son passé pur, la maison de son père, l'école, la route où le fils du voisin l'attendait, pour lui jurer qu'il l'aimerait toujours, qu'il lui consacrerait tout son avenir, et l'heure où ils décidèrent qu'ils s'aimeraient éternellement et s'épouseraient dès qu'ils auraient l'âge. Non, Lisa, ce serait pour toi le bonheur si tu mourais demain quelque part, dans une cave, dans un coin, comme la phtisique. À l'hôpital, dis-tu, oui, on t'y mènera, mais... Et ta dette à la patronne? Une phtisie n'est pas une maladie comme une fièvre chaude, qui laisse jusqu'au dernier moment à la malade l'espoir de la guérison. Elle se leurre elle-même, se croit en bonne santé, et cela fait les affaires de la patronne. Mais toi, tu mourras lentement. tu te verras mourir et nous t'abandonnerons. Qu'auras-tu à dire? Tu as vendu ton âme, c'est vrai, mais tu dois de l'argent, et l'on te laissera toute seule, car que faire de toi? On te reprocha même de tenir de la place pour rien et de traîner ta mort. Tu auras soif, on te donnera de l'eau et des injures avec. Quand donc crèveras-tu, salope? Tu nous empêches de dormir avec tes gémissements et tu dégoûtes les clients. J'ai moi-même entendu ces paroles. Enfin, toute mourante, on te jettera dans un coin puant de la cave, dans l'obscurité, dans l'humidité. Et que penseras-tu toute seule durant les nuits interminables? Et tu mourras. Une main mercenaire t'ensevelira impatiemment. Au lieu de prière, on entendra autour de ton cadavre que d'ignobles jurons. Personne pour te bénir, personne pour te plaindre. On te mettra dans une bière pareille à celle de la phtisique, puis on ira au cabaret parler de toi, et tu reposeras dans la boue, dans la fange, dans la neige fondue. Mais faire des cérémonies pour toi, descends là-bas, Mouka, mais fais faire des preuves. Même ici, elle a les pieds en l'air, c'était sa destinée. C'est une telle, on ne dépense pas trop de cordes, ça ira comme ça. Oui, ça ira comme ça. Ah non, pourtant, ça penche d'un côté. Oh, c'était tout de même un être humain. Oh, ben, tant pis, allez, vas-y. Et on se chamaillera pas longtemps, ton honneur. Le plus vite possible, on te jettera quelques pelletées d'argile humide et bleuâtre et... Oh, camarade ! Voilà ton avenir. Les autres femmes sont accompagnées au cimetière par leurs enfants, leurs pères, leurs maris. Mais toi, pas une larme, pas un soupir, pas un regret. Personne au monde, personne jamais ne viendra prier sur ta tombe. Ton nom disparaîtra de la face de la terre comme si tu n'avais jamais existé, comme si tu n'étais jamais né. De la boue à la boue. Et la nuit, quand les morts soulèveront leur couvercle, tu leur crieras « Laissez-moi, bonnes gens, encore un peu vivre dans le monde. J'ai vécu et je n'ai pas vu la vie. Ma vie a servi de torchon aux autres. On a bu ma vie dans le bouge de la Seine-Naya. Laissez-moi, bonnes gens, encore un peu vivre dans le monde. » J'arrivais au pathos, des spasmes commençaient à me serrer la gorge et... Tout à coup, je m'arrêtais, la peur me prit. Je me soulevais avec terreur et le cœur battant, je me penchais et me mis à écouter. Le cas était embarrassant. Depuis longtemps, je sentais bien que mes paroles devaient bouleverser Lisa... jusqu'au fond de l'âme, mais plus cette conviction s'imposait à moi, plus j'avais hâte d'obtenir l'effet le plus intense possible. Le jeu m'entraînait, et aussi autre chose. J'avais parlé en calculant tous mes mots en vue de l'effet, comme dans un livre. Oui, elle avait raison, on eût vraiment dit que je lisais dans un livre. Mais cela ne me gênait pas. Je savais, je pressentais que j'étais compris. Et ce procédé livresque ne pouvait, à mon sens, qu'aider au succès. Mais maintenant que j'avais obtenu l'effet, j'en avais subitement peur. Je reculais devant ma propre action. Non, jamais, jamais encore. Je n'avais vu un tel désespoir. Lisa cachait sa tête dans l'oreiller, s'y enfonçant avec force et le tenant embrassé dans ses bras. Un tremblement convulsif secouait tout son corps. Longtemps les sanglots l'oppressèrent, et tout à coup ils éclatèrent avec des cris et des gémissements. Alors elle se serra plus violemment encore contre l'oreiller, pour que personne dans la maison, pour qu'aucune âme vivante ne l'entendît pleurer. Elle déchirait le linge avec ses dents, elle mordait ses mains jusqu'au sang, je m'en aperçus ensuite. Elle s'accrochait les deux mains à ses nattes défaites, puis elle restait immobile, retenant sa respiration, serrant les dents. Je voulus d'abord lui parler, essayer de la calmer, mais je n'en eus pas le courage, et tout frissonnant moi-même, je me jetai à tâtons en bas du lit pour m'habiller et m'en aller. Il faisait sombre. Malgré tous mes efforts, je ne pouvais aller vite. Enfin, je trouvai une boîte d'allumettes et un chandelier avec une bougie entière. Aussitôt que la lumière éclaira la chambre, Lisa se leva vivement, s'assit au bord du lit toute défigurée, et me regarda d'un air inconscient, souriant comme une folle. Je m'assis près d'elle, je lui pris la main. Elle parut reprendre le sentiment de l'événement et de l'heure, fit un mouvement vers moi comme pour m'enlacer, mais n'osa pas et baissa doucement la tête. Lisa, ma chère, commençai-je, je ne voulais pas, pardon. Mais elle me serra fortement les mains. Je compris que ce n'était pas cela qu'il fallait dire et je me tus. Voici mon adresse, Lisa, viens me voir. Je viendrai, murmura-t-elle indécise, la tête toujours baissée. Et maintenant, je m'en vais, adieu, au revoir. Je me levai, elle se leva. Tout à coup, je la vis rougir, tressaillir. Elle saisit un châle qui traînait sur une chaise, le jeta sur ses épaules et s'en couvrit jusqu'au menton. Puis elle me regarda bizarrement avec un sourire maladif. Cela me fit souffrir. Je me hâtais de m'en aller, de disparaître. « Attendez, » dit-elle inopinément, comme nous étions déjà dans le vestibule, près de la porte, en m'arrêtant par mon manteau. Elle posa vivement la bougie et s'enfuit. « Oh, ce sera rappelé quelque chose qu'elle veut me montrer, » pensais-je. En me quittant, elle était toute rouge, ses yeux brillaient, son sourire était changé. Qu'est-ce que tout cela pouvait signifier? J'attendis. Bientôt, elle revint, une prière, une excuse dans le regard. En général, ce n'était plus le même visage que quelques heures auparavant. Ce n'était plus ses yeux mornes, méfiants ou obstinés. Maintenant, son regard était suppliant, doux et si confiant. Si tendre, si timide. Les enfants regardent ainsi ce qu'ils aiment et dont ils espèrent quelque chose. Elle avait des yeux gris clairs, de beaux yeux vifs, aussi bien faits pour exprimer l'amour que la haine. Sans rien m'expliquer, comme si j'étais un être supérieur qui devait tout deviner, elle me tendit un papier. Son visage était tout éclairé, naïvement et presque puérilement triomphant. J'ouvris le papier. C'était une lettre d'un étudiant en médecine, ou quelque chose d'analogue, une lettre très empoulée, d'un style haut en couleur, mais très respectueuse, une déclaration. J'ai oublié les termes, mais je me souviens très nettement qu'en dépit des fioritures de style, on devinait dans cette lettre un sentiment véritable, ce quelque chose qu'on ne peut feindre. « Quand j'eus fini cette lecture, je rencontrai le regard de Lisa, un regard ardent, curieux, impatient comme un regard d'enfant. Et comme je tardais à lui parler, elle me raconta en quelques mots précipitamment, mais avec une sorte de fierté joyeuse, comment elle était un soir à un bal de famille, chez des gens très convenables, en famille, chez des gens qui ne savent encore rien, rien du tout, car ici elle est toute nouvelle, et c'est seulement comme ça, elle n'a pas du tout l'intention d'y rester, et elle s'en dira dès qu'elle se sera acquittée. Eh bien, à ce même bal, se trouvait un étudiant, et ils avaient dansé, causé toute la soirée. Et cet étudiant l'avait connue toute petite fille à Riga, il y a bien longtemps. Et il avait aussi connu ses parents, mais de cela il ne sait rien, 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 et ne s'en doute même pas. Et voilà, le lendemain du jour du bal, il y a 3 jours, il envoya cette lettre par un ami avec lequel elle était venue à cette soirée. Eh bien, voilà tout. Elle baissa les yeux, toute confuse. Pauvre fille, elle conservait cette lettre comme une chose précieuse, et elle avait tenu à me montrer cet unique trésor, ne voulant pas me laisser m'en aller sans savoir qu'on pouvait, elle aussi, l'aimer honnêtement et sincèrement, et qu'on lui parlait avec respect. La destinée de cette lettre était sans doute de jaunir dans un coffret sans autre conséquence. Mais n'importe, je suis certain qu'elle l'aura toujours conservée comme un trésor, comme son orgueil palpable et sa palpable excuse. Et dans un pareil moment, elle avait songé à m'apporter cette pauvre lettre pour étaler naïvement son orgueil devant moi, pour se réhabiliter à mes yeux, pour que je la félicite. Mais je ne lui dis rien, je lui serrai la main et je sortis. J'avais si grande hâte de m'en aller. Je fis tout le chemin à pied, quoique la neige tombât à gros flocons. J'étais fatigué, écrasé, étonné. Mais déjà, sous l'étonnement, la vérité se faisait jour, une sale vérité. Je ne voulus pas l'accepter tout de suite, cette vérité. Le matin, en m'éveillant après quelques heures d'un sommeil lourd et profond, je me rappelais immédiatement toute la journée de la veille et je m'étonnais de ma sentimentalité avec Lisa. Qu'est-ce que tout ce fatras compatissant? J'ai donc mal au nerf comme une femme? Et pourquoi lui ai-je donné mon adresse? Et si elle vient? Eh bien qu'elle vienne, qu'est-ce que cela me fait? Je sortis dans la soirée pour me promener un peu. Il me restait, comme conséquence de la veille, une forte migraine et la tête me tournait. Plus la soirée avançait, plus augmentait l'obscurité et plus changeaient et s'embrouillaient mes pensées. Il y avait en moi, dans les profondeurs de mon cœur et de ma conscience, quelque chose qui ne voulait pas mourir, un sentiment mystérieux qui me faisait souffrir matériellement comme une brûlure. Je dirigeais ma promenade vers les endroits les plus fréquentés, les rues les plus commerçantes, le Metchanskaya, la Sadovya, le jardin Voussoupov. J'avais pris l'habitude de faire cette promenade à la tombée de la nuit, à l'heure où la foule des petits commerçants et des ouvriers, avec leurs visages soucieux jusqu'à la méchanceté, devient plus compacte à cette heure où le travail quotidien est fini. C'était précisément ces soucis infimes, des infimes bénéfices qui me plaisaient, et précisément cette prose éhontée. Mais ce soir-là, le coudoiement de la rue ne fit que m'exaspérer davantage. Je ne pouvais parvenir à joindre les fils de mes idées. Sans cesse, une inquiétude se levait en moi et ne voulait pas s'apaiser. Déconcerté, je repris le chemin de mon logement. Il me semblait qu'un crime pesait sur ma conscience. La pensée que Lisa pouvait venir ne cessait de me torturer. Si elle venait, oh bien qu'elle vienne, ben, il faut pas qu'elle voie comment je vis. Hier, j'ai dû lui paraître un tel héros. Et maintenant, pourquoi donc me suis-je à ce point désintéressé de mes propres affaires? C'est très misérable chez moi. Mon divan de toile cirée crache sa paille, ma robe de chambre refuse de me couvrir. Quelle loque! Et elle verra tout cela. Et elle verra Apollon, mon domestique. Cet animal ne manquera pas de l'offenser, il trouvera quelque chose de désagréable à lui dire pour me causer des ennuis. Et moi, évidemment, je serai lâche comme à l'ordinaire, je me ferai petit devant elle. J'essaierai de me draper dans ma robe de chambre, je sourirai, je mentirai. Fi, quel dégoût! Et ce n'est pas encore là ce qu'il y a de plus dégoûtant. Il y a pis, plus sale, plus vil, oui, plus vil. Toujours. Toujours me couvrir d'un masque de mensonge et de malhonnêteté. Cette pensée m'enflamma. Mais malhonnêteté, pourquoi? Quelle malhonnêteté? Je parlais sincèrement hier. Je sentais vivement ce que je disais. Oui, je voulais réveiller en elle les sentiments nobles. Je savais que cela lui ferait du bien de pleurer. Que cela lui serait salutaire. Mais quoi que je fisse, je ne pouvais parvenir à me tranquilliser. Et toute la soirée, même après 9 heures, quoique je fusse sûr, d'après mes calculs, que Lisa ne pouvait plus venir, je la vis, elle fut devant mes yeux et toujours dans la même attitude. Car de toute la précédente soirée, un instant s'était particulièrement gravé dans ma mémoire. C'était quand j'avais aperçu, à la clarté de l'allumette, les visages pâles et défaits de Lisa et son regard de martyr. Et quel sourire pitoyable, anormal, inutile, elle avait sur les lèvres. Et je ne savais pas alors que 15 ans après, Lisa serait encore devant mes yeux intérieurs, avec ce même pitoyable, anormal et inutile sourire. Le lendemain, j'étais disposé à considérer tout cela comme des futilités, un relâchement du système nerveux et surtout des exagérations. Je m'étais toujours reconnu cette faiblesse et j'en craignais beaucoup des effets. J'exagère toujours et c'est là ce qui me perd, me disais-je à chaque instant. Du reste, Lisa viendra peut-être quand même. Ce refrain concluait toutes mes réflexions et cette inquiétude m'enrageait. Elle viendra certainement, criai-je en courant à travers la chambre. Si cela est aujourd'hui, ce sera demain, mais elle viendra. Oh, maudit romantisme des cœurs purs! Quel dégoût, quelle sottise! Oh, l'imprévoyance des âmes dégoûtantes de sentimentalisme! Et au fond, comment ne pas comprendre? Et pourquoi pas comprendre? Ici, je m'arrêtai dans une étrange perplexité. Et qu'il ait fallu peu de paroles, observai-je en passant, qu'il a fallu peu d'idylles, et d'idylles livresques, artificielles, factices, pour retourner toute mon âme. Ah, la persistante virginité! Ah, le perpétuel renouveau de l'argile humaine! Parfois, la pensée me venait d'aller chez elle, de lui dire tout, de la supplier de ne pas venir. Mais alors une telle colère se levait en moi qu'il me semblait que j'aurais écrasé cette maudite Lisa si elle avait été à ma portée. Mais je l'aurais outragée, conspuée, chassée, battue. Cependant, une journée se passa, une autre encore, et encore une troisième. Lisa ne venait pas, et je commençais à me rassurer. Surtout, passé 9 heures du soir, j'étais tout à fait courageux, et je me promenais en liberté. Je me mis même à réfléchir moins amèrement à toute cette aventure. Voyons, je vais sauver Lisa, puisqu'elle ne vient pas. Je lui parle, je développe son esprit, j'entreprends son éducation. Je vois enfin qu'elle m'aime passionnément, mais je fais semblant de ne pas la comprendre. Je ne sais pourtant pas pourquoi je fais semblant, c'est peut-être plus beau. Puis un soir, toute confuse, très belle, elle se jette à mes pieds en tremblant et en pleurant. Elle me dit que je suis son sauveur, qu'elle m'aime plus que tout au monde. Je lui marque quelque étonnement, mais... Lisa, lui dis-je, peux-tu donc penser que je n'ai pas compris ton amour ? J'ai tout vu, tout deviné, mais je n'osais pas attenter à ton cœur. Je connaissais mon influence sur toi. Je craignais que, par reconnaissance, tu fisses effort pour répondre à mon amour. Et cela, je ne le veux pas, ce serait du despotisme. Ce ne serait pas délicat. Et alors ici, je me lançais dans des subtilités européennes à la George Sand, des sentiments d'une inexprimable noblesse. Mais maintenant tu es à moi, maintenant tu es ma création, maintenant tu es pure et belle, tu es ma femme. Et dans ma maison, librement et hardiment, entre et règne. Puis nous commençons une vie charmante, nous allons à l'étranger, etc., etc., etc. Je me faisais honte à moi-même et je finissais par me tirer la langue. Mais on ne la laissera pas partir, la dégoûtante, pensais-je. On ne les laisse pas trop se promener, il me semble, surtout le soir. Il me semblait, je ne sais pourquoi, qu'elle viendrait précisément le soir, précisément à 7 heures. Oui, mais ne m'a-t-elle pas dit qu'elle n'est pas encore tout à fait esclave? Qu'elle a des droits. Cela veut dire... Oh, que le diable l'emporte. Elle viendra certainement. Je devais encore m'estimer heureux que les grossièretés d'Apollon m'eussent un peu distrait pendant tout ce temps. Cet homme a usé ma patience. C'était ma plaie, ma croix. Nous nous disputions du matin au soir depuis des années, et je le haïssais. Mon Dieu, comme je le haïssais! Jamais encore je n'avais haï personne à ce point. C'était un homme déjà sur le retour de mine imposante. Outre mon service, il faisait le métier de tailleur à ses moments perdus. Mais je ne sais pourquoi, il me méprisait. Car il me méprisait, et un peu plus que de raison, et me regardait du haut de sa grandeur. Du reste, il traitait tout le monde de même. Rien qu'à voir cette tête blondasse, ses cheveux bien lissés, ce toupet qu'il ramenait sur le haut de son front et graissait avec de l'huile d'olive, cette grande bouche, ses lèvres qui affectaient la forme d'un yitza, se sentait en présence d'un être qui ne doutait jamais de lui. C'était un insupportable pédant, le plus grand pédant de toute la terre. Avec cela, un amour-propre qu'on eût à peine pardonné à Alexandre de Macédoine. Il était amoureux de chacun des boutons de son habit, et de chacun de ses ongles, positivement amoureux. Il me traitait très despotiquement, me parlait très peu, et quand il me regardait, c'était avec une inexplicable suffisance, une hauteur inaccessible, et toujours avec une mimique railleuse qui parfois m'exaspérait. Il semblait faire son service par pure complaisance. Du reste, il ne faisait presque rien pour moi et ne se croyait obligé à aucun travail. Très certainement, il me considérait comme le dernier des sots, et s'il me souffrait auprès de lui, c'est seulement qu'il trouvait agréable de toucher chaque mois ses gages. Il consentait à ne rien faire pour 7 roubles par mois. Il me sera beaucoup pardonné à cause de lui. Notre haine mutuelle devenait telle parfois que je me sentais au moment de prendre une attaque de nerfs, rien que pour avoir entendu le bruit de son pas. Ce qui me dégoûtait plus que tout, c'est un certain sifflement qu'il avait en parlant. Il devait avoir la langue trop longue ou quelque autre vice de conformation qui le faisait fuffer ses lèvres et siffler. Il me semble qu'il en était très fier, s'imaginant peut-être que cela le faisait ressortir. Il parlait bas, lentement, les mains derrière le dos, les yeux baissés. Il m'enrageait surtout quand il se mettait à lire ses psaumes. Nous n'étions séparés que par une cloison. Nous avons eu bien des combats à cause des psaumes, mais c'était sa passion. Tous les soirs, il se mettait à lire les psaumes, d'une voix calme, égale, en chantonnant comme s'il veillait un mort. Il est curieux que ce soit ainsi qu'il ait fini. Il se loue maintenant pour lire les psaumes auprès des morts. Le reste de son temps est partagé entre les deux professions de preneur de rats et de cireur de bottes. Mais en ce temps-là, je ne pouvais le chasser. Il était soudé à mon existence, chimiquement. D'ailleurs, il n'aurait pour rien au monde consenti à s'en aller. De mon côté, je n'aurais pu vivre dans une chambre garnie. Mon logement était isolé. C'était ma gaine, la boîte où je m'enfermais, loin de toute l'humanité. Or, Apollon, le diable sait pourquoi, me paraissait faire corps avec ce logement, et 7 ans durant, je ne pus me décider à le chasser. Quant à lui retenir ses gages seulement 2 ou 3 jours, c'était impossible. Il faisait alors de telles histoires que je ne savais où me fourrer. Mais cette fois, j'étais tellement exaspéré contre le monde entier que je me résolus, j'ignore pourquoi, à punir Apollon, à lui faire attendre ses gages pendant 15 jours entiers. Il y avait déjà longtemps, près de 2 ans, que je m'étais promis de faire cela, n'eût-ce été que pour lui prouver qu'il n'avait pas à faire le fier avec moi, et qu'en somme, j'étais son maître. J'arrêtai en moi-même que je ne lui dirais rien, afin de le forcer à me parler de ses gages le premier. Alors, je sortirai les 7 roubles de ma tirelire, je lui montrerai qu'ils sont là, mis à part, tout exprès pour lui, mais que je ne veux pas les lui donner, tout simplement je ne veux pas, parce que je ne veux pas, parce que c'est ma volonté de maître, parce qu'il est insolent, grossier, mais s'il demande respectueusement, alors peut-être m'adoucirai-je. Autrement, il attendra encore 15 jours, 3 semaines, 1 mois entier. Et pourtant, malgré toute ma résolution, c'est finalement encore lui qui est resté vainqueur. Je ne pus soutenir la lutte plus de 4 jours. Il commença par son manège ordinaire dans ces occasions. J'avais déjà fait la même tentative quelque 3 ans auparavant, et je prévoyais comment les choses allaient se passer. Je savais par cœur sa vile tactique. C'était d'abord un regard extrêmement sévère et prolongé, surtout quand il me rencontrait dans la rue ou qu'il sortait en même temps que moi. Si je tenais bon ou si je faisais semblant de ne pas remarquer ce regard, il inaugurait de nouvelles et toujours silencieuses persécutions. Sans être appelé, inopinément, il entrait sans bruit sur la pointe du pied, dans ma chambre, pendant que je lisais ou que je marchais, s'arrêtait sur le seuil, mettait une main derrière son dos, avançait un pied et me jetait un regard non plus sévère mais plein de mépris. Si je lui demandais brusquement ce qu'il voulait, il ne me répondait pas, me regardait dans le blanc des yeux quelques instants encore, puis, tout en suçant ses lèvres d'une façon très particulière, très significative, tournait sur ses talons lentement et lentement rentrait dans sa chambre. 2 heures après, il revenait. Incapable de me posséder davantage, je ne lui demandais plus ce qu'il voulait, mais je levais brusquement et impérieusement la tête et je le regardais fixement, à bout portant. Il nous est arrivé de regarder pendant 2 minutes. Enfin, il finissait par tourner lentement sur ses talons, comme la première fois, avec dignité, et s'en allait de nouveau pour 2 heures. Si cela ne suffisait pas pour me réduire, si j'osais continuer ma révolte, il se mettait alors à soupirer en me regardant, à soupirer longuement, profondément, comme s'il voulait mesurer de ses soupirs toute la profondeur de ma chute morale. Il va sans dire qu'il finissait par me vaincre. J'étais hors de moi, j'écumais de rage, et je n'en passais pas moins par où il voulait. Mais cette fois, dès le regard sévère, je sortis de mes gonds. Je me précipitais sur Apollon. J'étais déjà assez irrité sans cela. « Halte !» lui criai-je, « reste ici !» Mais lui, lentement, silencieusement, dignement, s'en allait déjà, sa main derrière son dos. « Reviens ici, reviens !» criai-je en le poursuivant. Ma voix devait atteindre un diapason surnaturel, car Apollon se retourna et même se mit à me considérer avec un certain étonnement. Mais il s'obstinait à se taire, et c'est cela surtout qui m'exaspérait. « Comment oses-tu chez moi entrer sans rien demander? Comment oses-tu me regarder ainsi? Réponds !» Il me regarda tranquillement pendant une demi-minute, puis il se retourna de nouveau. « Halte !» hurlai-je en courant à lui. « Ne bouge pas, tiens-toi là et réponds-moi. Qu'es-tu venu faire ici ?»« Si vous avez quelque chose à m'ordonner, » dit-il doucement et posément, après un silence, tout en suçant ses lèvres et en balançant tranquillement sa tête d'une épaule sur l'autre. Et sa voix, son attitude, tout en lui exprimait une placidité qui m'affolait. « Ce n'est pas cela, bourreau, ce n'est pas ce que je te demande !» m'écriai-je tremblant de colère. « Je vais te dire moi-même, bourreau, pourquoi tu viens ici. Tu vois que je ne te donne pas tes gages. Tu ne veux pas par vanité condescendre à me les demander. Et c'est pourquoi tu viens, avec tes regards bêtes, me punir, me torturer. Et toi, tu ne soupçonnes pas, bourreau, comme c'est bête, 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 bête !» Il commençait déjà à tourner sur ses talons, mais je le saisis par le bras. « Écoute, voici l'argent, tu le vois, il est là !» Je tirai la somme de mon tiroir. « Les 7 roubles, y sont !»« Mais tu ne les auras pas, tu ne les auras pas !» Tant que tu ne seras pas venu respectueusement la tête basse, me demander pardon. « Cela ne se peut pas, répondit-il, avec une assurance surnaturelle. « Ça suffit, criai-je, je te jure que tu ne les auras pas. Mais il n'y a pas de quoi vous demander pardon, continua-t-il comme s'il ne s'apercevait même pas de mes cris. C'est vous qui m'avez appelé bourreau, et je pourrais aller porter plainte chez le commissaire. Va donc, hurlai-je, mais vas-y tout de suite, à la minute, à la seconde, bourreau, bourreau, bourreau. Mais il me regarda à peine, gagna la porte et, sans plus m'écouter, sans se retourner, rentra tranquillement chez lui. Or, sans Lisa, rien de tout cela ne serait arrivé, pensais-je. Je restai un moment immobile dans une pose digne et solennelle, mais mon cœur battait faiblement tant j'étais ému. Puis j'allai moi-même chez Apollon. « Apollon, lui dis-je d'une voix basse et contenue, mais j'étouffais de rage. Va tout de suite et sans attendre un seul moment chez le commissaire. » Il s'était déjà assis à sa table, avait mis ses lunettes et cousait. En entendant mon ordre, il éclata de rire. « À l'instant ! À l'instant, allez, vas-y, à l'instant, tu ne sais pas ce qui va arriver. Mais vous n'êtes vraiment pas dans votre assiette, observa-t-il sans même lever la tête, en se suçant lentement les lèvres et en enfilant son aiguille. Où a-t-on vu cela, qu'un homme envoie chercher l'autorité contre lui-même? Et quant à m'effrayer, ce n'est pas la peine de vous donner tant de mal, vous n'y réussirez pas. Mais vas-y donc! Je frappais comme un roquet. J'avais déjà saisi Apollon par l'épaule, j'allais le... C'est alors que la porte d'entrée s'ouvrit, et lentement, doucement, une figure apparut, vint à nous, s'arrêta et nous regarda avec étonnement. Oh, j'étais comme anéanti de honte. Je me précipitais dans ma chambre et là, saisissant des deux mains mes cheveux, je me jetai contre le mur et restai ainsi, sans me retourner. 2 minutes après, j'entendis le pas lent d'Apollon. « Voici une personne qui vous demande, » dit-il en me regardant avec une incroyable sévérité. Il s'effaça et laissa passer Lisa. Mais il ne faisait pas mine de s'en aller, il restait là, avec son sourire moqueur. « Va-t'en, va-t'en !» lui commandai-je éperdu. En cet instant, la pendule grinça avec effort, siffla, puis sonna 7 coups. Je restai devant elle comme tué, intimement déshonoré, salement embarrassé. Je souriais, il me semble, et je tâchais de me draper dans ma robe de chambre épilée, juste comme j'avais dans mes mauvaises heures imaginé que je ferais. Elle aussi était toute confuse. Je n'avais pas prévu cela, et c'était mon propre embarras qui la gagnait. « Assieds-toi, lui dis-je machinalement. » Je plaçai une chaise pour elle auprès de la table, et m'assis moi-même sur le divan. Elle m'obéit aussitôt, s'assit, et se mit à me regarder de tous ses yeux, attendant évidemment que je lui dise quelque chose. Cette attente naïve me mit hors de moi, mais je me retins. Elle devrait pourtant faire semblant de ne rien remarquer, comme si tout se passait normalement, et voilà qu'elle a... Et je me jurais vaguement qu'elle me paierait cher pour tout cela. « Tu m'as trouvé dans une étrange situation, Lisa, » commençai-je, tout en sachant que c'était précisément ainsi qu'il ne fallait pas commencer. « Non, 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 je ne parle pas de mon mobilier, » m'écriai-je en me voyant tout à coup rougir. « Je n'ai pas honte de ma pauvreté, au contraire, j'en suis fier. Je suis pauvre, mais je suis honnête. Car on peut être pauvre et honnête, » je balbutiais. « Enfin, du reste, veux-tu du thé ?»« Non, » commençait-elle, « mais attends. » Je me levai précisément et courus chez Apollon. Il fallait bien me cacher quelque part. « Apollon !» bredouillai-je avec une précipitation fiévreuse, en lui jetant les 7 roubles que j'avais durant tout ce temps gardés dans ma main. « Voici tes gages, tu vois, je te les donne. » « En revanche, sauve-moi. Va tout de suite chercher au tractir du thé et 10 sourards. Si tu n'y vas pas, tu me désespéreras. Tu ne sais pas qui est cette femme, c'est tout. Enfin, tu t'imagines peut-être, mais c'est que tu ne vois pas qui est cette femme. » Apollon, qui s'était déjà remis au travail et qui avait déjà repris ses lunettes, loucha d'abord vers l'argent, sans quitter son aiguille. Puis, sans me prêter la moindre attention, sans me répondre, il continua à se disputer avec son fil qui faisait des difficultés pour passer par le trou de l'aiguille. J'attendis 3 minutes debout devant lui, les mains croisées à la Napoléon. J'avais les tempes mouillées de sueur, j'étais très pâle et je le sentais. Mais enfin, Dieu merci, il eut pitié de moi. Laissant là son fil, il se leva lentement, recula lentement sa chaise, ôta lentement ses lunettes, compta lentement son argent, et m'ayant demandé par-dessus son épaule combien il fallait prendre de thé, sortit lentement. En retournant auprès de Lisa, je pensais que je ferais mieux de m'enfuir, comme j'étais, dans ma robe de chambre, n'importe où. Et je m'assis de nouveau. Elle me regardait avec inquiétude. Il y eut un silence de quelques instants. « Oh, je le tuerai !» m'écriai-je tout à coup en frappant du poing sur la table, si violemment que l'encre jaillit de l'encrier. « Qu'avez-vous ? » dit-elle toute tremblante. « Je le tuerai ! Je le tuerai !» J'avais repris mon jappement de roquet et je continuais à frapper la table, quoique je sentisse fort bien la stupidité de mon emportement. « Oh, tu ne peux pas savoir, Lisa, comme il me torture. C'est mon bourreau. Il est allé chercher des sourards. Lisa. » Et tout à coup, je fondis en larmes. C'était une crise. Que j'avais honte de ma faiblesse. Mais j'étais incapable de me dominer. Elle s'effraya. « Mais qu'avez-vous donc ?» disait-elle en s'agitant autour de moi. « De l'eau, donne-moi de l'eau !» balbutiai-je à voix basse. J'avais très nettement conscience que cette eau me serait tout à fait inutile et que rien ne m'obligeait à balbutier à voix basse. « C'est par là !» Quoique la crise fût réelle, je peux dire que je jouais la comédie pour sauver les apparences. Elle me donna de l'eau. Elle était comme éperdue. En ce moment, Apollon apporta le thé, et il me sembla que ce thé banal et prosaïque était une chose terriblement inconvenante et misérable après tout ce qui venait de se passer, et je rougis. Lisa considérait Apollon avec un air craintif. Quant à lui, il sortit sans nous regarder. « Lisa, tu me méprises, » dis-je en la regardant fixement, frémissant d'impatience de savoir ce qu'elle pensait. Elle était si confuse qu'elle ne put même pas me répondre. « Prends du thé, » dis-je avec colère. J'étais irrité contre moi-même et il va sans dire qu'elle devait tout supporter. Une horrible colère me soulevait le cœur contre elle. Il me semblait que je l'aurais tuée avec plaisir. Et pour me venger, Je me jurai mentalement que je ne lui dirai plus un mot. C'est elle qui est la cause de tout, pensais-je. Le silence dura 7 minutes. Le thé restait sur la table, nous n'y touchions pas. Exprès, tant la perversité me gouvernait, je ne voulais pas boire le premier pour rendre plus pénible la position de Lisa, puisqu'il ne convenait pas qu'elle commençât. Je me regardais à la dérobée avec étonnement, avec tristesse. Je m'obstinais à me taire. Certes, le principal bourreau, c'était moi, et j'avais pleine conscience de toute la dégoûtante bassesse de ma sottise et de ma méchanceté. Mais je ne m'appartenais plus. Je viens de là. Je veux en sortir tout à fait, commença-t-elle pour rompre d'une façon quelconque ce silence intolérable. Mais la pauvre, elle aussi, elle commençait précisément comme elle ne devait pas commencer. Un tel moment, un tel homme parlait d'abord de cela. Oh, mon cœur se serra de pitié pour sa franchise inutile et pour sa maladresse. Mais aussitôt, un sentiment de méchanceté refoula en moi la pitié. Cette velléité même de compassion redoubla ma cruauté. « Mais que tout aille au diable, me dis-je. » Encore 7 minutes de silence. Elle se leva en disant d'une voix à peine intelligible « Je vous dérange ?» Il y avait dans sa voix de la dignité offensée et de la lassitude. Aussitôt ma colère déborda, je me levai aussi, tremblant, suffoquant de rage. « Mais pourquoi es-tu venu chez moi ? Dis-moi, je t'en prie !» Je ne tenais même plus compte de l'ordre logique de mes paroles. Je voulais tout lâcher d'un seul coup et je ne savais pas par où commencer. « Pourquoi es-tu venu ? Réponds, réponds !» « Ah, je vais te le dire, ma petite mère, je vais te le dire pourquoi tu es venue. C'est parce que je t'ai dit l'autre jour des mots de pitié. Cela t'a touché et tu es venue chercher encore des mots de pitié. Eh bien, écoute, sache que je me suis moqué de toi. Et maintenant encore je me moque de toi. Eh oui, je me moquais. On m'avait offensé dans la soirée à un dîner et des gens, des camarades. Et je venais dans votre maison pour provoquer l'un d'eux, un officier qui avait dû y venir avant moi. Je ne l'ai pas rencontré. Fallait bien me venger sur quelqu'un, reprendre ce qu'on m'avait pris. Tu es tombé sous ma main et j'ai bavé sur toi toute ma colère, toute mon ironie. On m'avait humilié et je t'ai humilié. On m'avait tordu comme un torchon, j'ai voulu à mon tour user de ma force. Voilà. Et toi, tu croyais déjà que je voulais te sauver, n'est-ce pas ? Tu l'as cru, tu l'as cru. Je savais que quelques détails pourraient lui échapper, mais j'étais sûr qu'elle comprendrait très bien l'ensemble de mes paroles. Je ne me trompais pas. Elle devint pâle comme un mouchoir, voulut parler, mais ses lèvres se convulsèrent et elle s'affaissa sur sa chaise comme si elle venait de recevoir un coup de hache. Et aussi longtemps que je parlais, elle m'écouta, la bouche béante, les yeux démesurément ouverts, dans une saisissante attitude d'épouvante. Le cynisme de mes paroles la comblait de stupeur. « Te sauver !» continuai-je en me mettant à courir de long en large dans la chambre. « Et te sauver de quoi ? Mais je suis pire que toi, peut-être. Que pensais-tu l'autre jour quand je te faisais de la morale ? Et toi-même, pourquoi es-tu ici avec toute ta morale ? Voilà ce que tu pensais. Prouver ma force, prouver ma force. Voilà ce qu'il me fallait alors. » Tes larmes, ton humiliation, ton hystérie, voilà ce qu'il me fallait. D'ailleurs, une fois que j'eus obtenu ce que je voulais, J'en ai été moi-même atterré parce que je suis une femmelette et le diable sait quelle sotte pensée m'a fait de te donner mon adresse. Je le regrettais déjà en rentrant chez moi et je t'accablais d'injures à cause de cette maudite adresse et je te détestais déjà. Car avec mes mots de pitié, je t'avais menti. Des phrases, révélation et la traduire en phrases, voilà ma vie. Quant à l'action réelle, sais-tu ce que je veux? Que tout soit anéanti, tout, tout. Il me faut la paix. Et pour l'avoir, je donnerai le monde entier pour un copec. Si l'on me donnait à choisir entre le thé et l'humanité, je choisirais le thé, comprends-tu? Je le sais, je suis un vaurien, un cochon, un égoïste, un lâche. Sais-tu, voilà 3 jours que je tremble en songeant qu'à chaque instant tu peux venir. Et sais-tu encore ce qui m'inquiétait le plus? C'est que l'autre jour, tu m'as pris pour un héros, et qu'aujourd'hui tu me vois dans ma petite chambre, dans ma misérable et dégoûtante chambre. Je te disais tout à l'heure que je n'avais pas honte de ma pauvreté. Je mentais. J'en ai honte, honte, plus que de toute autre chose. J'aurais moins honte de voler. J'ai tant d'amour propre qu'il me semble, à la plus légère offense, qu'on m'a écorché, que l'air même qui me baigne me blesse. Ne comprends-tu pas maintenant au moins que je ne te pardonnerai jamais de m'avoir vu me jeter comme un roquet sur Apollon? Ce sauveur, ce héros, qui se jette comme un chien galeux sur son domestique, et son domestique qui s'en rit. Et les larmes de tout à l'heure, ces larmes honteuses que j'ai versées devant toi comme une baba, je ne te les pardonnerai jamais. Et tout ce que j'avoue en cet instant même, je ne te le pardonnerai jamais, à toi. Oui, toi, toi seul, tu paieras pour tout cela. Quoi t'es-tu trouvé sur mon chemin? Ou pourquoi suis-je un vaurien, le plus dégoûtant, le plus ridicule, le plus mesquin, le plus sot, le plus jaloux de tous les vers de terre, qui ne sont pas meilleurs que moi, mais qui du moins, le diable sait pourquoi, n'ont jamais honte d'être ce qu'ils sont? Mais moi, toute ma vie, chaque vilenie que j'ai commise a eu pour conséquence une terrible chiquenaude sur mon âme. C'est par là que je diffère des autres hommes. Tu comprends rien à tout cela, n'est-ce pas? Que m'importe? Que m'importe que tu te perdes ou que tu te sauves? Qu'es-tu pour moi? Mais comprends-tu, mon Dieu, comprends-tu que je te hais parce que tu es ici et que tu as entendu ce que je viens de te dire? Un homme ne se confesse qu'une fois dans la vie. Et pour le faire, il faut qu'il ait une crise d'hystérie. Et que veux-tu encore? Mais pourquoi es-tu encore ici devant moi, à me torturer au lieu de t'en aller? Mais ici se passa une chose étrange. J'ai une habitude à ce point invétérée de penser, de réfléchir d'après les livres et de me représenter tout au monde comme si je l'imaginais moi-même dans mes rêves. Que cette chose étrange, je ne la compris pas aussitôt. Outragée, écrasée par moi, Lisa avait compris beaucoup plus profondément que je ne pouvais le supposer. De tout cela, elle avait compris ce qu'une femme comprendra toujours avant toute chose si elle aime sincèrement. C'est que l'homme qui lui parlait ainsi était lui-même malheureux. La frayeur et le ressentiment avaient disparu de son visage, qui n'exprimait plus qu'une surprise désolée. Quand je me traitais de vaurien et de cochon, et quand mes larmes recommencèrent à couler, car je pleurais en dépitant toute cette tirade, ses traits se crispèrent convulsivement, elle voulut se lever et m'interrompre. Et quand j'eus fini, elle ne s'arrêta pas à mes cris, elle ne parut pas entendre ce que je lui reprochais d'être encore là, mais sa physionomie exprimait avec évidence qu'elle sentait seulement combien je devais moi-même souffrir en lui disant tout cela. Et d'ailleurs, la pauvre créature était tellement humiliée, elle s'estimait si incomparablement inférieure à moi qu'il ne lui venait pas même à l'esprit de s'offenser. Dans une sorte d'élan, à la fois irrésistible et timide, elle fit un pas vers moi, puis n'osant s'approcher davantage, me tendit les bras. Mon cœur se serra. Elle vit ma physionomie changer. Elle se jeta sur moi, enlaça mon cou de ses mains et se mit à pleurer. Oh, je n'y pus tenir moi-même, et je sanglotais comme jamais cela ne m'était arrivé. Bon, on ne me laisse pas, oh, je ne le puis pas, être bon, murmurai-je d'une voix entrecoupée. Et me laissant tomber sur le divan, je sanglotais pendant un quart d'heure dans une crise de véritable hystérie. Lisa se serra contre moi, m'étreignit dans ses bras et parut s'oublier dans cette étreinte. Mais la crise passa. J'écris ici qu'on ne l'oublie pas la plus sale réalité. Et voilà, couché à plat ventre sur le divan, le visage enfoui dans un misérable oreiller de cuir, voilà que, peu à peu, de très loin, involontairement mais irrésistiblement, je commençais à sentir qu'il serait maintenant bien gênant de relever la tête et de regarder dans les yeux de Lisa. De quoi avais-je honte? Je le sais, mais j'avais honte. Il me vint aussi à l'idée que les rôles avaient définitivement changé, qu'elle était devenue l'héroïne et que j'étais moi-même devenu l'être humilié et offensé qu'elle était devant moi, elle, 4 jours auparavant. Et je pensais cela tout en restant couché sur le divan. Mon Dieu, est-il vraiment possible que j'aie en ce moment été jaloux de Lisa ? Je le sais maintenant encore, je ne puis me rendre compte de cela. Il m'a toujours été impossible de vivre sans tyranniser quelqu'un et... Ben, les raisonnements n'expliquent rien. Et pourquoi raisonner ? Pourtant, je repris le dessus. Je levai la tête. Il aurait bien toujours fallu lever la tête un jour ou l'autre. Or, je suis maintenant certain que c'est précisément parce que j'avais honte de la regarder que s'alluma soudainement un sentiment imprévu, le sentiment de la domination et de la possession. Mes yeux s'enflammèrent passionnément, je serrai avec force les mains de Lisa dans les miennes. Comme je la haïssais en ce moment, mais comme cette haine m'attirait étrangement vers elle. La haine doublait l'amour, et cela ressemblait presque à de la vengeance. Un immense étonnement bouleversa ses traits, un étonnement tout voisin de la terreur. Mais ce fut court, et elle se hâta de m'étreindre avec une ardeur passionnée. Un quart d'heure après, je courais de long en large dans la chambre avec une impatience fébrile. À chaque instant, je m'approchais du paravent et à travers une petite fente, je regardais Lisa. Elle était assise par terre, la tête appuyée au lit et paraissait pleurer. Mais elle ne s'en allait pas et cela m'irritait. Maintenant, elle savait tout. Je l'avais suprêmement outragée, mais... Que sert de raconter ? Elle savait maintenant que mon bref désir était né d'une pensée de vengeance, du besoin de lui imposer une humiliation nouvelle, et qu'à ma haine, pour ainsi dire sans corps, s'était substituée une haine personnelle, réelle et fondée sur la jalousie. D'ailleurs, je n'affirme pas qu'elle ait compris tout cela nettement. Ce qui est certain, c'est qu'elle me tenait désormais pour un homme parfaitement vil et surtout incapable d'aimer. « Oh, je sais bien, on me dira qu'il est impossible d'être méchant et bête à ce point. On ajoutera peut-être qu'il est impossible de ne pas aimer une telle femme, impossible au moins de ne pas apprécier son amour. Bast ! Qu'y a-t-il d'impossible ? D'abord, je ne pouvais plus aimer, dans le sens qu'on attribue à ce mot. Aimer, pour moi, ne signifiait plus que tyranniser et dominer moralement. Je n'ai même jamais pu concevoir un autre amour, et je suis allé si loin en ce sens qu'aujourd'hui, je crois fermement que l'amour consiste en ce droit de tyrannie concédé par l'être aimé. Même dans mes rêves souterrains, je ne me représentais l'amour que comme un duel commencé par la haine et fini par un asservissement moral. Mais après, je n'aurais su que faire de l'objet asservi. Et encore une fois, qu'y a-t-il d'impossible ? Ne m'étais-je pas dépravé invraisemblablement ? N'avais-je point perdu la notion de la vie vivante au point d'avoir osé faire honte à Lisa d'être venue écouter des mots de pitié ? Et pourtant, elle était venue pour m'aimer. Car pour une femme, c'est dans l'amour qu'est toute résurrection, tout salut de n'importe quel naufrage. C'est par l'amour et seulement par l'amour qu'elle peut être régénérée. Mais était-ce bien de la haine que j'avais pour Lisa à cette heure où je courais à travers la chambre et m'arrêtais à chaque instant pour regarder derrière le paravent ? Je ne crois pas. Il m'était seulement insupportable de la sentir là. J'aurais voulu qu'elle disparût, j'aurais désiré de la tranquillité, de la solitude. Je n'avais plus l'habitude de la vie vivante. Elle m'écrasait, ma respiration même en était gênée. Quelques instants se passèrent encore. Elle ne se levait pas, abîmée dans sa stupeur. Et j'eus l'imprudence de frapper légèrement auparavant pour la rappeler à elle-même. Elle se secoua brusquement, se hâta de se lever et de prendre son châle, son chapeau, sa fourrure, comme si elle eût voulu se sauver de moi quelque part. 2 minutes après, elle sortit lentement de derrière le paravent, fit quelques pas dans la chambre et laissa tomber sur moi un regard lourd. J'avais un méchant sourire, mais forcé à un sourire de convenance, et j'évitais son regard. « Adieu !» dit-elle, et elle se dirigea vers la porte. Je courus à elle, je lui pris la main, l'ouvris et lui mis, puis la fermai, et aussitôt, lui tournant le dos, je me reculai avec une singulière vivacité dans un coin, pour ne pas la voir au moins. J'allais mentir. Prétendre que j'ai fait cela sans réflexion, par folie, par sottise. Mais je ne veux pas mentir, et je dis franchement que si je lui ouvris la main pour y mettre, ce fut par méchanceté. Cette idée m'était venue tandis que je courais de long en large par la chambre et que Lisa restait derrière le paravent. Je puis toutefois dire sincèrement que, si je fis cette atrocité exprès, ce fut plutôt par malice cérébrale que par dépravation sentimentale. Une atrocité, soit mais artificielle, combinée, livresque. Et quand ce fut fait, je ne pus supporter la pensée de l'action que j'avais commise. Je me reculai dans un coin, puis presque aussitôt, je me précipitai affolé de honte et de désespoir. Lisa était déjà partie. J'ouvris la porte et criai dans l'escalier, mais timidement à mi-voix, « Lisa ! Lisa !» Pas de réponse. Il me sembla entendre des pas sur les marches. « Lisa ! » criai-je plus haut. Pas de réponse. La porte de la rue s'ouvrit en grinçant et se referma lourdement. Ce bruit monta jusqu'au sommet de l'escalier. Parti. Je rentrai dans ma chambre en réfléchissant, mon cœur me pesait. Je restai debout devant la table auprès de laquelle Lisa s'était assise. Je regardai inconsciemment. Un moment se passa. Tout à coup, je tressaillis. Juste devant moi, sur la table, j'aperçus, oui, j'aperçus le billet bleu de 5 roubles, tout chiffonné, le même billet que je lui avais mis dans la main. C'était bien lui, cela ne pouvait être un autre, je n'en avais qu'un. Elle avait donc profité du moment où je m'étais détourné pour le jeter sur la table. Eh bien, j'aurais dû prévoir cela, hein ? J'aurais dû le prévoir. Non, j'étais trop égoïste. Je méprisais trop les gens pour imaginer qu'elle pût être capable de cela. Mais cela me fut insupportable. Je m'habillai en toute hâte, prenant les premiers vêtements qui se trouvèrent sous ma main, et je me précipitai dans sa poursuite. Elle n'avait pas pu faire plus de 200 pas. Un temps calme. La neige tombait presque perpendiculairement et formait un matelas sur les trottoirs de la rue déserte. Aucun bruit. La lumière inutile des réverbères me parut singulièrement triste. Je fis en courant 200 pas jusqu'au plus prochain coin de la rue, et là je m'arrêtai. Où avait-elle pu aller? Mais pourquoi lui courais-je après? Pourquoi? Tomber à genoux devant elle, pleurer encore, baser ses pieds et lui demander pardon? Oui, je l'aurais fait. Quel moment! Jamais je ne me le rappellerai avec indifférence. Mais à quoi bon? Dès demain ne la haïrai-je pas, précisément parce qu'aujourd'hui je lui aurais baisé les pieds? Suis-je capable de la rendre heureuse? N'ai-je pas constaté aujourd'hui pour la 100e fois ce que je vaux? Ne la torturerai-je pas sans cesse? Je restais debout dans la neige, poursuivant mes méditations au fond de l'ombre des rues, là-bas. Ne vaut-il pas mieux qu'il en soit ainsi? Continuai-je à songer, déjà rentré dans ma chambre. N'est-ce pas mieux? Ne vaut-il vraiment pas mieux qu'elle emporte pour l'éternité son offense? L'offense, mais c'est une purification. C'est la plus douloureuse et la plus profonde conscience de la dignité humaine. Dès demain, oui, j'aurai sali son âme et blessé son cœur. Tandis que désormais, l'outrage ne périra pas en elle. Malgré toute l'horreur de la boue qui l'attend, l'outrage l'élèvera et la purifiera. Par la haine, peut-être par le pardon. Et pourtant, en sera-t-elle plus heureuse? Et je me posais philosophiquement cette question, à étudier aux heures de loisir. Que vaut-il mieux? Un bonheur médiocre ou des souffrances supérieures? Que vaut-il mieux? C'est à l'étude de ce problème que j'ai consacré cette soirée d'agonie. Jamais je n'avais tant souffert. Je crois néanmoins qu'au moment même où je sortis pour rejoindre Lisa, je savais que je rentrerais au bout de 200 pas. Jamais plus je n'ai revu Lisa. Jamais plus je n'ai rien su d'elle. J'ajouterai que je fus longtemps très satisfait de ma phrase sur l'utilité de l'outrage et de la haine. Pourtant, je faillis tomber malade de chagrin. Ah, même aujourd'hui que ces souvenirs me sont amers. Oui, finissons là ces maudites notes. Elles n'ont été pour moi qu'une nouvelle cause de souffrance, de honte. Quel absurde roman! Dirait-on pas que j'ai rassemblé en moi exprès tous les traits d'un anti-héros? L'effet doit en être très désagréable. Assez donc. Je ne veux plus écrire de mon souterrain. Maintenant, d'ailleurs, tout est fini. Katia, Lisa et 40 ans.